Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Un podcast France Culture.
L'heure d'Avec Science avec vous, Alexandra Delbo. Bonjour.
Bonjour Quentin.
Ce matin, on s'intéresse à comment produire de l'énergie à partir de l'évaporation de l'eau de mer.
Oui, comment tirer profit de ce processus continu qui fait partie intégrante du cycle de l'eau sous l'effet de l'énergie solaire. Les rivières, les lacs, les mers, l'océan s'évaporent. L'atmosphère se charge ensuite sous forme de nuages ou de brouillard par condensation pour finalement retomber en pluie à la surface de notre planète. Environ la moitié de l'énergie solaire qui atteint la Terre est à l'origine de ce processus, et bien plus que les rayons qui touchent directement le sol et s'en servir pour créer de l'énergie. C'est ce qu'on appelle l'effet hydrovoltaïque. Giulia Tagliabue est professeure à la faculté d'ingénierie de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et co-autrice de cette étude parue dans Device.
L'effet hydrovoltaïque se base sur des effets qui s'appellent électrocinétiques. C'est-à-dire que quand un fluide qui contient des charges, qui c'est comme qu'on a des sels dans l'eau, qui se passe toujours dans des eaux naturelles, quand ce fluide se déplace, est mis en mouvement d'une surface solide, il y a un phénomène de transport des charges aussi dans les solides. Et donc, quand le fluide s'est mis en mouvement, on peut avoir des courants et des voltages qui se développent sur la côté solide du système. Donc, il y a deux parties de le problème. Un, c'est comment on peut mettre les fluides en mouvement. Donc, ça, c'est où l'évaporation nous fait un gros faveur parce qu'elle nous donne de l'énergie pour rien sans que nous devons mettre les fluides en mouvement. Et l'autre, c'est comment est-ce qu'on peut générer de l'électricité par les mouvements de fluides.
Et hop, une première partie gratos, l'évaporation remplit déjà le rôle de mise en mouvement du fluide sans aucun apport d'énergie extérieure. Le second élément de l'équation à résoudre, c'est de transformer le mouvement du fluide en électricité. Pour cela, il faut s'équiper d'un solide avec une surface chargée. Le passage du fluide contre la surface va générer du courant et du voltage. Ça, c'est pour la partie théorique. Pour la mise en pratique, il a fallu construire de nombreux dispositifs afin de mieux comprendre l'ensemble des processus fondamentaux qui régissent cet effet.
Alors Alexandra, à quoi ressemblent ces appareils hydrovoltaïques ?
Alors ce sont des nanofibres de 100 nanomètres de diamètre, soit 1000 fois plus épaisses qu'un cheveu. Elles sont disposées côte à côte, très proches et à la surface de l'eau, afin que le fluide s'infiltre entre les colonnes. L'objectif de l'étude est donc de faire varier d'un côté l'espacement et le diamètre de ces piliers, et de l'autre de modifier la propriété du fluide, et donc surtout la quantité de sel dans l'eau. Résultat, ça marche. Cela génère de l'électricité, mais surtout à des gammes de salinité semblables à ce qu'on trouve dans l'eau de mer. Et ça, c'était inattendu.
On a découvert qu'on peut faire fonctionner ces dispositifs dans une variété de concentrations de sel, de l'eau super pure, celui qu'on peut générer dans les labos, jusqu'à l'eau de la mer. C'était un attendu. En fait, quand on a vu les premiers résultats, on comprenait pas vraiment pourquoi on avait plusieurs maximums de voltages dans notre système. On a vraiment dû revenir sur les fondamentaux pour comprendre d'où ça venait. Ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, il y a un équilibre chimique entre la quantité de charge sur la surface de solide et la quantité de sel dans les fluides. Et donc, cet équilibre nous permet d'opérer, même avec des concentrations de sel plus élevées, avec des nanocanals qui restent avec des dimensions qui sont faciles à manufacturer. Donc, on n'est pas bloqué par cet aspect un peu plus pratique, mais on peut vraiment réaliser des dispositifs qui opèrent dans une variété de concentrations.
Et il y a donc un double effet bénéfique. D'un côté, ces dispositifs pourraient servir à produire de l'énergie pour alimenter implémenter par exemple un système adjacent. Et de l'autre, on pourrait aussi obtenir de l'eau potable pure en recondensant l'eau évaporée. La poursuite de ces travaux est-elle aussi double? Continuer cette recherche plus fondamentale pour explorer les phénomènes physico-chimiques qui entrent en jeu et définir notamment les limites théoriques de ce système. L'autre est une expérimentation plus appliquée avec le développement d'un dispositif plus grand, d'une dizaine de centimètres cette fois, sur le lac Léman pour voir la durabilité et l'efficacité de celui-ci en conditions réelles.
Merci beaucoup Alexandra, et pour toutes celles et ceux qui voudraient écouter ou même réécouter Avec Science, c'est possible sur l'application Radio France et sur le site de France Culture.